Bonjour, ici Autre Radio, Autre Culture. Aujourd'hui, nous avons la joie et la chance de recevoir Christina Delhume. Alors, qui est Christina Delhume ? C'est une chanteuse, mais très particulière. Alors, bonjour Christina.
Bonjour Marion. Autre culture, déjà c'est une appellation, une terminologie qui m'interpelle parce que je suis quelqu'un qui passe sa vie à faire partie d'une autre culture, là où elle vit. En France, je suis considérée comme espagnole. En Espagne, je suis considérée comme française. En fait, je suis un petit mélange des deux. Je suis franco-espagnole ou hispano-française, comme on veut. Ça dépend du temps, de la période, de l'évolution de la vie. Donc, je suis effectivement chanteuse. Je suis, j'aime à m'intituler auteur-interprète. Ça fait un peu pompeux, mais enfin, ça dit bien ce que ça veut dire. J'écris et je chante ce que j'écris. Ou alors, j'écris pour des gens qui me demandent soit des paroles de chansons, soit des livrets pour opéra. Et de temps à autre, je me mets à traduire, comme je l'ai fait il y a quelques temps. Généralement de l'espagnol vers le français, puisque l'espagnol est ma langue maternelle, malgré les apparences. Voilà, alors j'ai dit beaucoup de choses en même temps et j'ai tout mélangé. Là, maintenant, il va falloir...
Oui, on va essayer de un petit peu dégrouper tout cela. Comment es-tu venue à la musique ?
Je suis venue à la musique en sortant de la Sorbonne et en me promenant rue Descartes. Dans les années 73-74, il y avait un lieu qui s'appelait El Rancho Guarani. C'était une boîte, on appelait ça une boîte. En fait, c'était un lieu de musique vivante. Tous les soirs, des chanteurs sud-américains. Et à ce moment-là, c'était la fin, je pense, de la grande mode sud-américaine qui était encore en vigueur. Et cet endroit était tenu par un monsieur qui s'appelait Cristóbal Cáceres, qui faisait partie du groupe Les Guarani, et qui était un très grand chanteur paraguayen. Et en sortant de la Sorbonne et en allant prendre mon métro, je suis passée devant ce lieu. Et ce monsieur était devant la porte. Ce monsieur qui était un grand séducteur adressait la parole aux belles jeunes filles qui passaient devant. Et nous avons commencé à parler. Et bon, il a vu que j'étais espagnole. Il m'a demandé si je chantais. Et effectivement, moi, j'ai toujours chanté. J'ai toujours chanté puisque je suis d'origine espagnole, comme je viens de le dire. Et dans ma famille, on était tous amateurs, enfin ma grand-mère en particulier, mais chantait divinement bien et chantait tout le temps. C'est un peuple qui chante au quotidien. Donc j'ai une grande culture populaire de la chanson traditionnelle espagnole, disons. Donc j'ai toujours chanté, j'ai commencé à la maternelle, à Saint-Maur-des-Fossés, où j'ai grandi, puisque je suis née en France. Et là, j'ai chanté, les maîtresses, les institutrices ont découvert, lorsque j'avais 4 ans, que j'étais parfaitement bilingue. Donc ça a fait le tour de l'école maternelle. Et on m'a fait chanter pour Noël des chansons de Noël, qui s'appellent des villancicos. Et ça a été l'attraction de du moment. Saint-Maur-des-Fossés...
Ça a commencé très tôt, alors.
À l'heure espagnole, ça a commencé là. Et dès que j'avais l'occasion de chanter, je chantais. Ceci dit, j'ai entrepris des études universitaires que j'ai menées à bien par la suite. Mais pour en revenir au Rancho Guarani, il m'a proposé de m'apprendre des chansons sud-américaines. Et j'ai accepté. Et en fait, ça a été mon maître à chanter. Et donc, j'ai commencé à chanter en public du folklore sud-américain, en particulier argentin, chilien et paraguayen, en espagnol et en guarani. Le guarani étant la langue indienne des Paraguayens. Tous les Paraguayens sont bilingues. Comme j'étais à la Sorbonne, je me suis renseignée pour savoir s'il y avait des cours de guarani. En fait, il y en avait à Vincennes. Et c'était Rubén Barreiro Xavier, qui a longtemps été ambassadeur du Paraguay en France, qui était professeur et poète à Vincennes. Et j'ai commencé à apprendre le guarani, que je parle moyennement bien, disons. C'est très important à l'heure actuelle et ça ouvre des marchés internationaux extraordinaires, le guarani.
Et sur le plan musical, par rapport à la connaissance que tu avais des musiques espagnoles que vous chantiez dans votre famille, quand tu t'es retrouvée à chanter ces chansons latino-paraguayennes, guarani et autres, il y a des très grosses différences au niveau rythmique, au niveau musicalité ?
Il y a des différences, effectivement, et il y a beaucoup de points communs. On a d'un côté la musique, de l'autre côté la langue. chaque pays d'Amérique latine et chaque pays hispano-américain a un accent bien particulier. Ceci dit, c'est la même langue. Effectivement, il y a des indianismes, entre guillemets. Il y a des mots pris à la langue locale, autochtone, et qui ont été espagnolisés. Mais sinon, c'est de l'espagnol, parlé avec un accent différent. En fait, c'est comme si on entendait un Canadien parler. En fait, on comprend bien tout ce qu'il dit, sauf quelques mots qui sont soit des mots anciens, soit des termes pris à l'anglais ou je ne sais quoi. Donc, je me suis mis à chanter avec l'accent sud-américain, ça pour une part, pour faire vrai. Oui. Et d'autre part, la musique est vraiment très enracinée dans la tradition populaire espagnole. Par exemple, la cueca, qui est un rythme chilien, ressemble beaucoup à la jota espagnole. La samba argentine, pareil, mais chantée plus lent. La musique paraguayenne, que j'apprécie particulièrement, est fondée sur le rythme du tanguillo de Cádiz. C'est tout à fait cette même rythmique que l'on peut soit accélérer, soit jouer avec d'autres instruments. Donc, il y a des différences, mais il y a suffisamment de traits apparentés à la musique espagnole pour m'avoir donné l'envie de l'apprendre profondément. Et puis, je me suis sentie très, très attirée et j'adore la musique sud-américaine.
Alors, pendant combien de temps tu as chanté justement ce type de chanson ?
Alors, j'ai chanté ces chansons depuis 1974 jusqu'en 79-80. Où j'ai rencontré le directeur d'une compagnie. Ce directeur s'appelait Marc Normand et la compagnie s'appelait Le Chant des Hommes. Et là, j'ai participé à un travail d'entre 78-79 et 1985 d'élaboration, d'écriture et d'interprétation de spectacles de poésie et de musique. Alors, ces spectacles avaient lieu soit au Théâtre Essaillon, soit au Théâtre Trévise, soit à Beaubourg, on appelait ça sous la lande de Beaubourg, parce qu'il y avait un endroit où il y avait des spectacles de poésie et de musique aussi. Et puis partout en France, on est allé aux Antilles, on est allé un petit peu partout. Et là, c'était d'abord des chants guarani, c'est la raison pour laquelle ce directeur avait pris contact avec moi, parce que c'est vraiment quelqu'un de non-paraguayen qui chante en guarani, ça courait pas les rues dans Paris à cette époque-là, toujours pas, je pense pas. Et donc, c'était pour mettre en scène un spectacle de Pablo Neruda, Le Chant Général, avec des chants sud-américains, des textes dits, et puis des chansons en guarani. À la suite de quoi, on a fait un travail sur Aragon, plus rien à voir. Du coup, je me suis mise aussi à chanter français. Puisque quelque part, je pense que j'ai commencé par sud-américain, après j'ai chanté des chansons françaises et puis finalement des chansons purement espagnoles. Je pense qu'il m'a fallu arriver à un point de maturité suffisant pour pouvoir dévoiler cette partie de mon patrimoine culturel que je gardais très très profond dans mon cœur et que je ne voulais pas donner en spectacle ni en public. Je pense qu'il a fallu que j'arrive vraiment au point culminant de ma maturité pour pouvoir me dévoiler, vraiment.
On en parlait tout à l'heure, c'est justement, c'était assez curieux, c'est en reprenant un petit peu ta biographie, je me suis trouvée face à un problème par rapport à d'autres musiciens, où leur vie finalement est très séquencée, et il y a un moment où ils coupent tout pour aller vers autre chose. En revanche, toi, on a l'impression que c'est une tresse. C'est une espèce de tresse qui est faite et où tout s'entremêle et reproduit autre chose. On a l'impression que tout se mélange pour arriver à une nouvelle création.
Absolument, moi je ne coupe rien. Je ne coupe rien, en rien d'ailleurs, ni en amitié, ni en recherche intellectuelle, ni dans ma vie courante. En fait, de la même façon que j'ai une culture hybride, puisque je suis hispano-française, donc je vois déjà le monde sous deux axes. Je ne veux pas dire que j'ai une vision plus ample des choses, mais une vision diversifiée. On n'est pas tout à fait complètement en accord et en adéquation avec le lieu où l'on est. Alors, quelque part, c'est ennuyeux parce qu'on n'est jamais totalement compris. Il y a toujours une partie de soi qui échappe à l'autre. Et d'un autre côté, c'est très enrichissant parce qu'on a la possibilité de... une sorte de don d'ubiquité. On a la possibilité de se regarder vivre et de se regarder faire avec l'œil de l'autre culture. C'est difficile à manier, mais au bout d'un moment, c'est très enrichissant. Alors, de la même façon qu'on est obligé de faire avec les deux apports, on ne va pas arrêter d'être une chose pour en être une autre, puisqu'on est les deux. Alors, quitte à être les deux, on peut être les trois, les quatre, les cinq. On peut ajouter à ça une carrière de, comment dirais-je, d'enseignement qui va avec le fait de se mettre en scène aussi. Alors, il faut essayer de serrer, puisque je ne veux pas qu'on me mette dans des cases ni dans des tiroirs, mais il va bien falloir serrer un petit peu les choses. J'ai toujours été ou un professeur qui se mettait en scène un peu plus que la moyenne, ou un saltimbanque qui avait une mission didactique dans tous ses spectacles. Ou les deux. Et ça se produit au quotidien. De la même façon que j'ai une culture universitaire et littéraire, je me mets à écrire des textes qui, pourquoi pas, lorsque je les écris, sonnent à mon oreille, puisque je ne peux pas écrire si ça ne chante pas lorsque je les dis. Donc je les fais mettre en musique. Et j'ai sous la main quelqu'un qui est tout à fait adéquat, qui est Bernard Huistrat, dont on parlera certainement, oui. Qui est musicien à part entière, compositeur, arrangeur, chef d'orchestre, etc. Donc c'est très intéressant que de mettre en musique ces textes-là. Lorsque ça reste purement littéraire, ça peut être une traduction, comme Main dans la main avec Joaquín Rodrigo, qui est la biographie du grand compositeur espagnol Joaquín Rodrigo, qui a composé à Aranjuez, qui est très connu. Donc voilà, les choses vont de fil en aiguille. Et voyez comme je m'écarte déjà, j'ai commencé à essayer d'expliquer, et j'en ajoute. Mais en fait, finalement, c'est toujours des éléments très divers qui conduisent à la même chose, au même but, qui est pour moi véhiculer la tradition orale de ce qui constitue mes deux cultures, c'est-à-dire l'espagnole et la française, par le moyen de la parole dite, de la parole chantée et de la parole écrite.
De tes origines espagnoles, tu te considères entièrement espagnole, couvrant tout le territoire espagnol, ou plus particulièrement d'une région donnée ?
Bon, je suis mégalomane, mais enfin quand même, il va falloir quand même se résigner à rentrer dans les limites géographiques. En fait, je vais déjà donner des chiffres, puisque c'est à la mode. Je suis 75% espagnol et 25% français. En fait, j'ai à mon actif un grand-père français qui est parti s'installer en Espagne au début du XXe siècle. Il était attaché de presse à l'ambassade de France et il a fait souche là-bas. Et mon père est né là-bas. Ma mère aussi est en madrilène. Donc, j'ai toute la famille de ma mère madrilène et mon père étant lui-même moitié français, moitié espagnol. Donc moi, ça m'en fait 75%. Et comme je suis née ici à Paris, enfin à Saint-Maur-des-Fossés très exactement, Salvador Dali disait que la gare de Perpignan était le centre du monde. Pour moi, c'est Saint-Maur-des-Fossés le centre du monde. Voilà, c'est exactement, je pourrais le dire avec l'accent catalan, mais ça m'ennuierait un petit peu. Et comme je suis née en France, je suis comme les juifs de la diaspora. En fait, je suis espagnole à 300%. Je suis une caricature d'espagnole. Quand je rentrerai définitivement en Espagne, dans mon lieu, je pense que je me calmerai et je deviendrai beaucoup plus française qu'espagnole. Mais en gros, nous sommes madrilènes. Nous sommes madrilènes et sévillans.
D'accord.
Donc l'Andalousie, Séville et puis Madrid.
Est-ce que ça marque le caractère d'être originaire de ces régions-là ?
Ça marque. T'as pas trouvé depuis que je parle là que ça marque un petit peu. Si, ça marque énormément. Si les Castillans sont des dominateurs, ce sont eux qui ont imposé leur langue au reste de la péninsule. Alors, bien que maintenant les uns et les autres s'insurgent, la Castille est le centre de l'Espagne est composé de gens raides, fiers et sombres. Comme je disais dans le texte d'un petit opéra pour enfants que j'ai commis il y a quelque temps.
Oui, on va en parler d'ailleurs.
Oh, parlons-en.
Alors, dans ta suite, tu rencontres Bernard Huistrat.
Bernard Huistrat, je l'ai rencontré en 84-85, justement lorsque je faisais partie de cette compagnie Le Chant des Hommes. Nous donnions un spectacle, il s'appelait « Dis à la lune qu'elle vienne ». Tiré des poèmes de Federico García Lorca. Et dans ce spectacle, il y avait sur scène avec d'autres musiciens Annie Huistrat, qui n'est autre que la sœur de Bernard Huistrat. Et Bernard Huistrat venait très souvent voir le spectacle qui a duré longtemps, qui était à l'affiche pendant 6 mois, donc à Paris. Et voilà comment, de fil en aiguille, Bernard Huistrat est devenu le compagnon de ma vie, quoi. C'est mon mari.
Alors sur le plan musical, vous avez créé plein de choses, on va en parler tout à l'heure. Est-ce que ça a été immédiat, cette connivence musicale que vous avez tous les deux?
Absolument. Bernard est venu et nous a aidé à l'enregistrement de chansons espagnoles que je faisais à ce moment-là. Et il se trouve que d'emblée, Bernard de toute façon est quelqu'un qui sait accompagner tout type de musique et qui est d'un éclectisme rare. Donc il a commencé à nous accompagner pour s'amuser puisqu'il avait beaucoup d'autres choses à faire. Et moi je ne chante et je ne me produis que lorsque je suis en parfaite osmose avec les gens qui travaillent avec moi. Je suis quelqu'un qui travaille à l'émotion plus qu'à l'intellect, donc je dois être totalement en phase avec les musiciens et avec les gens avec lesquels je travaille. Et d'emblée, il s'est mis à accompagner ses musiques comme s'il avait fait ça toute sa vie. Et puis, il a commencé à me demander d'écrire des textes sur ses propres musiques. Il se trouve que la mayonnaise a pris. Et ces choses-là, on ne peut pas en fait en préjuger. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Et là, ça marche. Et Bernard est quelqu'un qui travaille énormément et qui sait faire travailler les gens autour de lui. Il a toujours une proposition, quelque chose à mettre en route. Et depuis, ça n'a pas arrêté.
On voit le couple terrible que vous réalisez tous les deux, parce que Bernard est quelqu'un d'excessivement dynamique, qui va toujours de l'avant, toujours en train de créer des choses, et puis on te voit pareil, toujours en train de plus posé, plus réservé, mais toujours aussi tous les deux dans cette exubérance de création musicale.
Voilà, Bernard s'est donné l'envie en fait, il s'est commencé à parler d'un sujet et puis à donner juste les éléments nécessaires qui font que l'imagination se met en marche sans imposer quoi que ce soit finalement. Je trouve ça très fort, moi. Je trouve ça très très fort.
Alors je sais que vous avez créé tous les deux, alors parle-moi-en parce que c'est un adorable opéra pour enfants que j'ai écouté et avec ravissement, avec des mélodies très jolies. Comment est venue cette idée de l'opéra pour enfants?
Alors c'était en 1994-95, en fait, à la suite des commémorations de la découverte de l'Amérique, donc en 1492, dans les années qui ont suivi, il y a de nombreuses entités culturelles qui ont demandé des spectacles pour soit les conseils généraux, soit dans les projets de ville. Et là, ça a été une commande qui nous a été faite d'un spectacle pour toute un programme culturel à l'année en région parisienne. Et nous avons Bernard a écrit la musique et j'ai écrit le livret de cette découverte de l'Amérique vue par des enfants. En fait, c'est comme si les frères Pinthon, qui étaient les deux propriétaires de bateaux qui ont accompagné Christophe Colomb pour la découverte de l'Amérique, c'est comme si les enfants de ces deux capitaines s'étaient embarqués avec le fils de Christophe Colomb qui s'appelait Diego. C'est comme s'ils s'étaient embarqués avec eux et avaient vécu tout ce voyage et avaient rencontré des enfants indiens à l'arrivée sur les premières îles découvertes par Christophe Colomb. Donc le texte se résume à ça et la musique a été composée par Bernard, donc avec des chansons pour enfants chantés par des enfants et puis des morceaux, disons, de bravoure pour des chanteurs classiques chevronnés qui interprètent l'opéra.
Très bien, moi je sais que ça a été aussi enregistré en Périgord. Ça n'a pas été non plus très facile puisque vous avez fait venir tout un orchestre symphonique en Périgord de Paris.
Absolument.
Et ça a été une aventure inoubliable pour notre ingénieur du son, Philippe Labrou.
Absolument, grand orchestre, chorale d'enfants, chorale d'adultes, soliste. Oui, ça a été une grande aventure et ça a été joué dans un certain nombre de lieux tout autour de la grande couronne parisienne. Et c'était à la fois un grand projet puisque certains collèges, lycées et écoles primaires le prenaient comme projet pédagogique de l'année. Faisant travailler les enfants, travaillant sur le texte, sur la langue, il y avait donc, comme je disais tout à l'heure, un outil pédagogique allié à l'expression artistique.
Est-ce que c'est une opération qui pourrait se recréer maintenant ou c'est plus difficile à faire?
Ben, c'est chaque fois plus difficile dans la mesure où ça demande quand même des budgets importants. Donc il y a toujours le nerf de la guerre qui blesse. Mais non, c'est tout à fait possible. Oui, il suffit que des gens, une ville, un maire ou même un directeur de la culture et puis des enseignants soient, comment dirais-je, intéressés et enthousiasmés par le projet pour que ça puisse se réaliser, effectivement. Ça peut.
Ça peut. Alors, que se passe-t-il après le Mundo Nuevo?
Mundo Nuevo, qui est le nouveau monde, en fait. Eh bien, ensuite, il y a un enregistrement dont j'aimerais parler, qui me tient particulièrement à cœur, qui s'intitule Calicanto. C'est le CD que j'ai enregistré après donc avoir abandonné la scène à temps complet, comme lorsque je faisais partie du Chant des Hommes. Et c'est une fresque musicale, c'est un périple géohistorique qui commence en Espagne au XVe siècle et qui finit en Amérique du Sud à l'heure actuelle. Donc avec des chansons traditionnelles espagnoles, des chansons traditionnelles sud-américaines et des chansons qui sont des créations en guarani, particulièrement, puisque les musiques sont souvent de Virgile, Virgilio Rojas en espagnol, de Bernard Huistrat aussi. Il y a aussi une collaboration entre les deux musiciens. Et les textes en guarani sont de Virgilio Rojas aussi. Donc c'est vraiment une fresque assez colorée qui s'intitule Calicanto, qui est un mot que j'ai formé avec deux mots espagnols, puisqu'on a la possibilité en espagnol de faire des néologismes à tour de bras. C'est-à-dire qu'on prend un mot, on en prend un autre, au milieu on met i, et ça fait un mot entier. Donc cal, c'est la chaux, canto, c'est le chant, et c'est aussi la pierre, en fait, c'est aussi le morceau de caillou. Donc Calicanto, c'est le chant et la chaux, le chant et la pierre, et ça englobe un peu l'idée que je me fais du monde hispanique.
Oui, il y a un peu de tes carrières également.
Absolument.
Parce que tu montes ton édifice pierre par pierre.
Et à la suite de ce CD, j'aimerais parler aussi d'un autre CD qui s'intitule Romances, romance en espagnol, et c'est le romance, en fait, c'est le genre littéraire qui est un peu une poésie populaire qui s'est mise en place après, lorsque le chant de geste, je traduis de l'espagnol, la chanson de geste finit sa vie, le romance commence la sienne en Espagne. Et donc, ce romance veut dire aussi la langue qu'on commence à parler lorsqu'on arrête de parler latin. Quand on arrête de parler latin, on parle romance. Et le romance est devenu le castillan, donc l'espagnol actuel. Et ce CD me tient particulièrement à cœur parce que c'est vraiment le chant dans son épuration la plus totale. C'est un CD qui est pratiquement a cappella, sauf accompagné de temps en temps par une dentelle musicale, je dirais, puisque n'y a pas d'arrangement, il n'y a pas une structure fixe, c'est simplement Bernard Huistrat, pour ne pas le nommer, qui joue de toutes les flûtes traversières, depuis le piccolo jusqu'à la flûte octobasse, qui est une flûte dont il est à peu près le seul à jouer de cette façon-là. Et c'est là aussi l'Espagne des trois religions, donc les trois apports de population et de culture qui ont fait ce que nous sommes à l'heure actuelle, c'est-à-dire des Espagnols. Donc il y a des chansons mauresques, des chansons judéo-espagnoles et des chansons castillanes chrétiennes. Et ça, c'est vraiment le petit bijou. C'est le CD qui m'a le plus marqué, où je suis allée le plus loin dans justement la simplicité et l'épure.
Ce sont des chants exactement de quelle époque à peu près
Ça commence au XVe siècle, 14-15e siècle, les romances mauresques de frontières, fronterizos, qu'on appelle, c'est fin du XIVe siècle, XVe siècle. Et puis ça va jusqu'à nos jours, puisque ce que je prétends, c'est que la mémoire reste vive et la tradition est toujours en marche. Donc les chants que je pourrais interpréter maintenant ne sont pas des chants morts, en fait. De la même façon qu'on parle des langues mortes, on pourrait parler de toute cette partie de la tradition orale qui pourrait être rangée dans un placard et qu'on dépoussière pour chanter d'une manière stéréotypée. Et là, il n'en est rien, en fait. Ce chant est vivant. Et moi, je suis le maillon de la chaîne qui le véhicule pour qu'il continue sa vie. Et c'est la raison pour laquelle, dans tous ces CD, nous allions la partie traditionnelle et ancienne, a toujours des chants et des chansons actuelles dont on fait la création et qu'on compose exprès pour s'ajouter à tout ce travail de mémoire.
Alors moi, j'ai une question que je me pose, ça doit être l'archéologue qui est au fond de moi, et puis parce que je sais les problèmes qu'on a eus pour le tournage de La Vie de Montaigne, qui s'appelle Les Cadets de Guyenne. Comment vous avez fait pour des chants du XIVe et du XVe siècle?
Alors, mon travail à moi est un travail, je l'ai dit un certain nombre de fois, de tradition orale. En fait, ils arrivent jusqu'à moi la plupart du temps chantés par des personnes qui ne sont pas professionnelles. Et mes prédécesseurs ont fait souvent un travail de recherche pour pouvoir faire des compilations de chants, des anthologies de chansons populaires espagnoles ou de musique populaire espagnole. Et j'ai souvent puisé là-dedans. Je suis allée moi-même de place en place pour écouter, pour enregistrer et pour pouvoir intellectualiser par la suite ce que j'entendais. La partie écrite est réalisée par Bernard Huistrat, c'est lui qui met en musique écrite, en musique savante, ce que les gens interprètent en tradition orale et sans connaissance de la musique. Donc à ce travail d'écoute et de rattachement avec nos propres racines, il y a ce travail d'écriture que Bernard Huistrat réalise.
D'accord.
Donc nous réécrivons ce qui ne l'a jamais été la plupart du temps, puisque le roman, ça a pour particularité d'être traditionnel et oral. Et ce genre littéraire est un genre qui a marqué toute la poésie espagnole jusqu'à nos jours, puisque nous arrivons jusqu'à Federico García Lorca, qui a composé le Romancero, qui n'est autre qu'un recueil de romances, avec une originalité qui est la sienne, bien sûr, mais qui est très profondément enracinée dans cette tradition du vers octosyllabique, qui est la façon de parler du castillan. De la même façon que le français écrit en alexandrin, le castillan écrit en octosyllabique.
Alors, quels sont en ce moment les projets ?
Les projets, je viens de terminer un CD, je parle de ce dont je pars pour aller vers ce quoi je tends. Un CD de ballades, poèmes et complaintes en français, qui est une sorte de réponse aux romances espagnoles, et qui commence aussi, et qui remonte aussi, puisque ça va jusqu'à la balade des pendus, jusqu'à des chansons composées par Bernard et moi-même à l'heure actuelle. Et là encore, à la suite de ça, je fais une virevolte, une de plus. Je suis en train de préparer un CD de boléro. Alors les boléros, c'est un genre musical qui peut être cubain, qui peut être de la partie haute de l'Amérique du Sud, c'est-à-dire les Antilles espagnoles, et qui peut passer pour un genre un peu à l'eau de rose, un peu mièvre, si c'est interprété d'une manière doucereuse. Mais il y a des mélodies absolument extraordinaires. Et là encore, je vais faire mon travail de mémoire, c'est-à-dire que je vais prendre des thèmes connus et anciens, et on va leur ajouter des choses tout à fait modernes et originales, puisque même Egberto Gismonti, qui est un des plus grands compositeurs brésiliens, en a composé un exprès pour moi. Je suis très très fière. Que je vais enregistrer ce printemps. Je pense qu'à la fin du printemps, il sera fait.
Alors moi, j'ai vu un spectacle, puisqu'on parle de Brésil, j'ai vu un spectacle de toi avec Bernard qui s'appelle Caboclo. Comment vient s'insérer Caboclo dans ta vie d'artiste ?
Alors ça, c'est pas un spectacle de moi, c'est un spectacle de Bernard. Lorsque Bernard fait un spectacle, il se trouve qu'il trouve toujours quelque chose à me faire faire dans le spectacle. Alors là, il n'a rien trouvé de mieux que de me faire écrire le fil conducteur du spectacle. Donc j'ai écrit le fil rouge, l'espèce d'histoire sur laquelle viennent s'appliquer les différents tableaux, puisque Bernard a conçu ça. Bernard, qui à part le fait d'être musicien, est aussi peintre, puisqu'il a fait tout le cursus des beaux-arts en même temps que ses études musicales. Il conçoit toujours ces spectacles comme des tableaux, en fait, que l'on pourrait peindre aussi. Donc, il a fallu que j'aille chercher. Bon, je suis déjà très sensible à la culture et à la civilisation sud-américaine, mais particulièrement hispano-américaine. Et là, il a fallu que j'aille voir dans le luso américain, c'est-à-dire dans le Brésil, avec l'apport portugais, avec l'apport non seulement indien, mais l'apport négroïde. Donc, j'ai écrit ce fil conducteur. Il a utilisé des musiques existantes. Il en a écrit aussi. Et de toute façon, une fois que j'ai écrit et une fois que j'ai participé, il ne manquerait plus que je ne fasse pas partie du spectacle sur scène. Alors là, ça serait une frustration terrible. Donc, je me suis retrouvée montée sur scène pour le spectacle Caboclo, qui est vraiment... D'ailleurs, il en existe un DVD qui va bientôt sortir dans le commerce. Une fresque qui met en scène aussi bien la capoeira que l'apport indien primitif, que les apports des Noirs, que la bossa nova, la musique d'Egberto Gismonti dont je viens de parler juste avant. C'est extrêmement riche et intéressant.
Oui, moi j'ai eu la chance de voir le DVD, c'est vraiment magnifique. Il y a des tableaux superbes. C'est là où on voit tout le sens artistique de vous deux d'ailleurs.
Avis aux amateurs.
Voilà. Quel est le calendrier actuel?
Alors là, c'est plutôt un calendrier d'enregistrement là pour le moment. La partie musique sur scène vient de se clôturer un peu. Bon, j'ai fait quelques festivals ces derniers temps. Là, juste avant les vacances de Noël, j'ai clôturé l'année Juan Ramón Jiménez, qui est un grand poète espagnol qui avait eu le prix Nobel en 1959, je crois, et à qui on a consacré toute une année culturelle dans toute l'Europe. Et j'ai terminé cette année par un spectacle donc avec sous la haute présidence de l'ambassade d'Espagne, du ministère de la Culture, enfin de toutes ces choses-là. Et là, je voudrais faire ce CD de Boléro, donc il faut que je m'y attelle. D'ailleurs, j'ai commencé les répétitions et c'est ce que je vais faire dans les deux mois qui viennent.
D'accord. Combien de chansons sont prévues?
12 en général.
12.
C'est d'accord. Biblique. Moi, je prends comme référence 12, comme les 12 tribus. Comme...
Et quel est le type d'orchestre que tu envisages sur ce disque?
Là, il n'y aura pas d'orchestre. Il y aura quelques musiciens qui font toujours partie de mes accompagnateurs. Il y aura Bernard Huistrat, bien sûr, Laurent Cardozo. Et un percussionniste qui vraisemblablement sera un percussionniste cubain que pour l'instant dont je ne dévoile pas le nom pour le moment. Donc ce sera très simple. Il n'y aura pas de grand orchestre pour faire ressortir ce côté musique populaire justement. Donc guitare, flûte et percussion extrêmement typée, extrêmement traditionnelle. Pour entourer ces boléros, donc, certains sont très connus et d'autres pas du tout. Donc voilà, c'est toujours ce côté tradition et création que je peux mettre en avant.
As-tu des conférences qui sont envisagées dans les temps futurs proches?
Alors justement, j'ai été contactée par la direction culturelle de Saint-Maur-des-Fossés pour faire vraisemblablement ce qu'on appelle des récitals conférences. En fait, on prend un sujet et puis je chante et j'entrelarde, entre guillemets, les chansons par quelques indications qui n'excèdent jamais les 5 minutes, qui font que ce n'est pas à proprement parler une conférence où on s'assied et on parle d'un sujet. C'est un spectacle, mais qui devient un outil didactique pour des entités culturelles.
D'accord. Est-ce que c'est très couru, ce genre de spectacle, conférence?
Effectivement, le public n'est pas extraordinairement large, mais il est extraordinairement intéressant. C'est-à-dire que, en fait, je correspond à un petit nombre, je le sais, je ne suis pas quelqu'un qui chante pour la foule ou pour les masses, puisque j'aime les lieux qui sont en général assez petits, ça n'excède pas les 300 personnes, 500 personnes au grand maximum, et c'est une façon de faire qui vous permet de regarder le public dans les yeux et de ne pas parler de public, mais de personnes le composant, avec des réactions extrêmement émouvantes et pour celui qui assiste au spectacle et pour celui qui l'offre. C'est une sorte d'échange que je ne voudrais effectivement perdre en m'adressant à une grande quantité de personnes qui fait que il n'y a plus un visage, il n'y a plus un regard, il n'y a plus qu'une masse. Donc je suis la chanteuse du petit nombre.
Et beaucoup d'étudiants sont intéressés par cette démarche.
Mais effectivement, plus qu'on ne le croit finalement. Étudiants et même jeunes gens et même adolescents qui dont on pourrait croire que effectivement ça ne les intéresserait pas du tout, parce que ce n'est ni il n'y a ni des onomatopées, ni de la rythmique à outrance, ni des mots qu'on ne comprend guère, enfin pour moi qui commence à entrer dans un grand âge. Donc sont des choses simples qui ont traversé les siècles, qui sont tellement fortes et tellement porteuses de tous les sentiments de la vie, c'est-à-dire l'amour, la mort, la souffrance, la peur, la joie, l'évolution, enfin tous les grands thèmes qui se sont cristallisés dans un rythme, dans une mélodie et dans quelques mots finalement, que ces jeunes gens-là viennent à la fin du spectacle et sont très émus, au moins autant que leurs aînés finalement. Pas dans la masse, pas dans le grand nombre, mais dans la qualité et dans l'émotion.
Bien. Bien, Christina, merci beaucoup d'être venue.
Ben, merci à toi, c'est très gentil, c'est très agréable. En plus, j'aime beaucoup ce genre d'émission, puisqu'on a affaire à un interlocuteur qui est tout à fait intéressant. Et puis, on peut le regarder dans les yeux et lui parler, et la chose devient beaucoup plus humaine. C'est très agréable. J'espère qu'il y en aura d'autres.
Mais oui, tout à fait. De toute façon, on va te recevoir dès que tu auras fait ton CD sur les boléros.
Il faut que je m'applique alors. Ouais. Je me dépêche.
Bien, c'était Autre Radio, Autre Culture. Je vous dis à la prochaine fois. Prochain débat de Autre Radio, Autre Culture, c'est le 15 février. C'est dans la suite de l'interview de Christina Delume. C'est un débat sur le romance espagnol avec la participation de Christina Delume, de Paco de la Rosa qui est chargé de cours à la Sorbonne, ainsi que la participation de Jaime Fidal Sefira qui est professeur de la Sorbonne émérite. Et le prochain interview, logiquement, c'est Elisabeth Cooper, pianiste et chef d'orchestre. Au revoir.
Se casa la niña del mandil de seda, que ella sola barre y ella sola friega. Ella hace la cama y ella duerme en ella, si no es su marido que duerme con ella. Y a la media hora le viene...
Autre radio, autre culture.